Ce matin, nous continuons notre périple dans le livre de Josué. Et le titre de la prédication, c'est la tâche finale de Josué, la dernière tâche de Josué. Et c'est dans Josué 13. Nous lirons seulement le premier verset, Josué 13, 1. Josué était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé, et le pays qui reste à occuper est très grand. » Prions. Père éternel, alors que nous tenons devant toi, Seigneur, et que nous sommes un petit groupe, un groupuscule ce matin, Seigneur, nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de venir parler à nos cœurs, Seigneur, et accorde-nous d'être intéressés, d'être tout ouïe, Seigneur, lorsque ta parole est proclamée, Seigneur, et que nous puissions, Dieu Tout-Puissant, retirer tous les bénéfices possibles, Seigneur, parce que ta parole nous est pleine de promesses, Seigneur, envers nous. Et Seigneur, tu nous parles à travers ta parole, Seigneur, tu nous instruis. Et Seigneur, cette même parole ne doit pas demeurer lettre morte, mais elle doit porter du fruit dans nos cœurs, Seigneur, et c'est en la mettant en application dans notre vie de tous les jours, Seigneur, que nous allons pouvoir t'honorer, Seigneur, et te servir, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Commençons par dire que Josué 13 est un des chapitres qui attire votre attention ou éveille votre intérêt, à tout le moins, non pas comme les 12 chapitres précédents qu'on a vus. Les 12 premiers chapitres de Josué étaient plutôt excitants, si on peut dire ainsi, palpitants. Quelqu'un a dit que c'était comme voir un film de guerre où il y a beaucoup d'action. Mais lorsque nous en venons à Josué 13, c'est tout comme si vous preniez une carte détaillée et y faites un relevé de territoire. Et cela, ce n'est pas très, très excitant. Cela nous rappelle un peu comme l'annuaire du téléphone. Vous consultez l'annuaire du téléphone, il n'y a rien de palpitant là-dedans. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de villes, beaucoup de cités. Et c'est difficile d'être intéressé, en quelque sorte, à ce qui est comme un relevé de terrain ou comme un annuaire téléphonique. Et pour empirer les choses, ces cités ou ces villes qui y sont mentionnées n'existent plus. Il serait plutôt tentant de sauter le chapitre, passer par-dessus, comme plusieurs commentateurs le font. Mais si nous croyons ce que Dieu dit concernant le livre appelé la Bible, nous devons croire ceci, n'est-ce pas? Que tout cela est pour notre bénéfice. 2 Timothée 3,16 s'applique à toute l'écriture de l'Ancien Testament, premièrement. Lorsque Paul l'a écrit, il pensait à l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit encore. Toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et profitable. Cela signifie que Josué 13 est bénéfique pour l'instruction, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est une citation de 2 Timothée 3,16. Ainsi, à la lumière de ce texte, de l'Écriture, une mise en garde à chacun de nous de ne pas peser sur le bouton snooze. Vous savez, ce petit bouton qu'on a sur le réveil matin, lorsqu'on se réveille, bien, qu'on ne veut pas se lever, on pèse dessus, puis on a encore 10 minutes, 10, 15 minutes. Alors, on pense qu'on va avoir encore une nuit de sommeil, mais c'est très court parce qu'on entend encore bip, bip. Donc, nous devons écouter ce que Dieu dit. De plus, rappelons-nous ceci, ce qui pourrait ne pas être excitant et palpitant pour nous, vivant au 21e siècle, dans le présent, et là, le maintenant et le présent. Mais si nous nous tenions dans les souliers des Israélites, cela aurait été un temps qui est passionnant. C'est quelque chose comme une apogée, un point culminant, quelque chose dont ils attendaient depuis des centaines d'années, d'entrer dans la terre promise, dans le pays promis. Et pour nous aider à ajuster notre pensée, au lieu d'y regarder comme un annuaire téléphonique, ou que c'est long, lancinant et pénible, pensons plutôt à la dernière volonté d'un testament, d'un oncle ou d'un grand-père, riche, très très riche. Cela raviverait certainement notre intérêt, n'est-ce pas? Si vous étiez pour recevoir un héritage d'une personne très riche, je pense que vous écouteriez ce qu'il y a à dire. Vous ne tomberiez pas de sommeil ou endormi. Vous pourriez même engager un avocat et obtiendriez une copie du testament et verriez à faire tout ce qu'il faut pour que vous receviez cet héritage. C'est le sujet de ce chapitre. C'est concernant l'héritage d'Israël dont ils attendaient depuis des centaines d'années. Et durant ces 40 années d'errance dans le désert, certainement que plusieurs d'entre eux se demandaient « Est-ce que cela va arriver un jour? Est-ce que c'est un rêve quelconque, un mirage? Aurons-nous un jour un endroit que nous pourrons appeler « home »? Maisonnée, home, je pense, ça définit bien notre endroit. » Prenez note que c'est le point principal de tout ce passage. C'est concernant l'héritage. Ce mot surgit plusieurs fois dans le chapitre 13. En fait, quelques 10 fois. Au verset 6, 8, 14, 23, 24, 28, 32, il apparaît deux fois, et verset 33. Cela devrait piquer notre intérêt. Je penserai en termes d'héritage de cette perspective. Si vous êtes un chrétien, vous avez un héritage. Vous êtes appelé, comme il est mentionné dans Romains 8, 17, un co-héritier de Jésus-Christ. Ainsi, ce que nous lisons ici dans Josué 13 présage, annonce quelque chose de plus grand. Josué 13 est en quelque sorte comme un apéritif, si on veut dire. Cela pointe vers quelque chose de beaucoup mieux, plus substantiel, quelque chose de beaucoup plus durable qu'un héritage temporel, physique. Nous recevrons plutôt un héritage éternel. Et Pierre nous décrit ainsi l'héritage dans 1 Pierre 1, 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Donc, encore au lieu de peser sur le bouton snooze et de prendre Josué 13 comme étant hors propos, peu utile, que ce n'est qu'une suite de noms qu'il vaut mieux sauter, repensez-y encore. Quelque chose d'autre dont nous avons besoin de nous rappeler lorsqu'on lit Josué 13. Un des dangers et une des tentations lorsque nous prenons notre Bible et faisons face à beaucoup de détails, c'est d'être perdu ou absorbé par ces mêmes détails. Eh bien, je ne suggère pas que les détails ne sont pas importants, mais il est important, lorsque nous en venons à des portions d'écriture comme celle-ci, nous devons prendre ce que j'appelle une perspective globale et de voir la grande image, de prendre le portrait général, de prendre une photo. Quand on prend une photo de groupe, on prend tout le groupe. Utilisant cette métaphore, considérons ces trois perspectives que nous retrouvons ici dans Josué 13 sous la forme de trois questions. Première question, qu'apprenons-nous concernant Dieu dans Josué 13? Qu'apprenons-nous concernant l'homme et qu'apprenons-nous concernant Christ? Donc, première question, qu'apprenons-nous concernant Dieu? depuis que nous sommes arrivés à Josué 13. J'espère que vous avez appris quelque chose de Dieu. J'espère que vous avez appris que Dieu, non pas Josué, est le héros de l'histoire de Josué. La nation d'Israël ne serait pas où elle est, se tenant dans la terre promise, à moins que Dieu ne l'ait premièrement sorti de l'Égypte et apporté dans cette même terre promise, dans ce pays promis. Voici la grande bannière, si vous voulez, que nous pouvons élever à travers l'histoire de la vie de Josué et de tous les événements qui sont racontés ici dans Josué. Grande est sa fidélité. Alors, c'est la bannière qu'on devrait mettre. Grande est sa fidélité. Oui, Dieu est un Dieu fidèle. Dieu a gardé ses promesses. Guerre après guerre, bataille après bataille. Ils ont vu la suffisance de Dieu. Il a démontré sa puissance surnaturelle, ce que nous pourrions appeler les grands événements. Nous rappelons au chapitre 3, la traversée du Jourdain. Ils ont fait tomber les murs de cette grande forteresse appelée Jéricho et Haï. De grandes batailles décisives ont été gagnées. À ce point-ci, ils jouissaient d'une mesure de domination dans le pays, mais pas la domination totale. Ils n'étaient pas encore maîtres de tout le pays, seulement qu'une petite partie, ils entraient. Il y avait encore à faire d'autres batailles à combattre. Le commentateur Francis Schaeffer, dans son commentaire, mentionne qu'à ce point-ci, ils sont assis sur une grosse île du territoire. Comme s'il y avait une grosse île dans le territoire, ils entraient, ils étaient assis là-dessus. C'est l'image qu'il nous dit que nous avons encore, que nous avons ici. Il y a encore du territoire qui devait être à conquérir, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et ce qui est mentionné ici, dès le verset 1b, il nous est dit, « Et le pays qui reste à occuper est très grand. » Alors, ça démontre qu'ils avaient simplement, ils faisaient juste entrer et qu'il y avait la vaste majorité du pays encore qui demeurait encore à conquérir. Nous avons une idée de ce qui était à conquérir. C'est très substantiel et nous y avons une nomenclature de cela dans les versets 2 à 5 du chapitre 13. Cependant, notez comment Dieu les rassure ici au tout début, au verset 6b. Il nous est dit, « Je les déposséderai devant les Israélites. » Alors, c'est assez catégorique. Et encore, Dieu les rassure par le moyen d'une promesse. Et encore, il leur donne toute une liste de tous les ennemis qu'ils feront face. Il y a encore beaucoup de batailles, beaucoup de sang versé devant eux. Maintenant, il est facile, pourrions-nous dire à ce point-ci, pour eux, les Israélites, de paniquer, d'avoir peur. Et voici la raison pourquoi. Dès le verset 1, il nous est dit, « Josué était vieux d'un âge avancé. » Il est clair que Josué, ce général 5 étoiles, ne sautera plus sur le champ de bataille. Il est trop vieux. Il ne peut plus combattre. C'est un rappel de la façon dont le livre de Josué s'ouvre au chapitre 1, où il nous est dit, il ouvre avec la mort de Moïse. Moïse n'est plus avec eux, il n'est plus avec les Israélites. Il n'est plus là pour nous aider en termes de conquérir ce pays. Et ici encore, avant qu'ils n'entrent et prennent possession des endroits que Dieu est sur le point de leur assigner, il leur est dit que Josué est vieux, avancé en âge. Moïse était mort. Qu'est-il arrivé? Eh bien, les choses ont continué d'avancer, n'est-ce pas? Josué était âgé, vieux, avancé en âge, et l'œuvre de Dieu va s'exécuter. Et c'est un rappel, n'est-ce pas, frères et sœurs, que l'œuvre de Dieu ne dépend pas de l'homme. Josué est âgé, vieux, mais l'œuvre de Dieu va avancer. La fidélité de Dieu ne repose pas, ne pivote pas sur l'homme. Dieu n'a pas besoin de nous. L'homme n'est pas indispensable. Et si nous avons déjà pensé ainsi, nous avons fait l'homme trop grand et Dieu trop petit. Dieu est toujours adéquat et ses grâces toujours suffisantes. La toute suffisance de Dieu à laquelle nous devons toujours la toute suffisance de Dieu à laquelle nous devons toujours tenir en face de la mortalité humaine et de l'infirmité humaine. Dès que nous dépassons la cinquantaine, vous commencez à penser plus à la mortalité humaine et à l'infirmité humaine. Plusieurs d'entre nous sommes déjà passés la cinquantaine, n'est-ce pas? Et cela nous fait penser concernant le futur. On dirait que c'est la démarcation où on réalise qu'on a un demi-siècle de fait et qu'il en reste probablement moins à faire. Et ça nous fait réfléchir sur le futur. Qu'est-ce qui va arriver? C'est dans la nature de l'homme d'être comme cela. Est-ce que l'œuvre de Dieu va continuer? Il nous faut croire qu'elle va se poursuivre. Et voici pourquoi. Parce que Dieu est Dieu. Bien qu'il utilise les hommes, il n'a pas besoin des hommes et il n'y a personne d'indispensable. Jean Calvin est devenu âgé, il est devenu vieux et il est mort. Martin Luther de même. Charles Haddon Spurgeon, considéré certainement comme étant le plus grand prédicateur après l'apôtre Paul, il est devenu vieux, âgé et il est mort. Mais l'œuvre de Dieu continue. C'est l'œuvre de Dieu parce que c'est l'Église de Dieu. Et il est toujours inconfortable d'entendre, peut-être vous avez déjà certainement entendu cela aussi, que c'est l'Église d'un tel ou d'un tel. Pourtant, c'est l'Église de Dieu. Et sa fidélité ne manque jamais, ne fait jamais défaut. Ses plans et ses buts ne sont jamais mis en attente parce que Moïse est mort ou que Josué est vieux et âgé. Mais notons de ce portrait global que nous voyons non seulement la fidélité de Dieu, comme nous venons de voir, mais que nous apprenons concernant la souveraineté de Dieu. Une des grandes doctrines qui devrait modeler notre vue de Dieu, ou ce que nous appelons la théologie propre, est la souveraineté de Dieu. Et il est à se demander si quelque enfant de Dieu peut vraiment avancer dans la vie sans prendre la souveraineté de Dieu comme un refuge constant. Il est à se demander si quelque enfant de Dieu peut vraiment avancer dans la vie sans prendre la souveraineté de Dieu comme un refuge constant. Citation de Charles Haddon Spurgeon, prédicateur anglais. Il disait, « Il n'y a pas d'attribut plus réconfortant pour les enfants de Dieu que sa souveraineté. » Et il continue, « Dans les circonstances les plus adverses, les épreuves les plus sévères, il croit, en parlant des enfants de Dieu, il croit que la souveraineté de Dieu a commandé leurs afflictions, que la souveraineté de Dieu les gouverne et que la souveraineté de Dieu va sanctifier toutes leurs épreuves. » Fin de la citation. Nous parlons de la souveraineté de Dieu. Voici ce que nous voulons vraiment et réellement dire. Nous disons simplement que Dieu est roi et il n'est pas seulement un roi parmi plusieurs rois, mais il est le roi des rois. Et ce roi est souverain. Pour l'amener d'une autre façon, tous les événements, toutes les circonstances, tout ce qui arrive dans votre vie, il en arrive des choses dans notre vie à tous les jours, est sous le contrôle souverain de Dieu. Croyez-le ou non, Vous êtes ici ce matin en raison de la souveraineté de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbes 16, 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui a fermé ses pas. » Certainement que nous réalisons que l'homme fait ses choix. On fait tous des choix. Mais c'est dans le dessein de Dieu et dans sa souveraineté et dans son plan pour nous d'être ici ce matin. Nous adorons un Dieu qui est souverain. Et encore, lorsque nous parlons d'un Dieu souverain, nous parlons de tout. Non seulement des grandes choses, mais les plus petites choses, toutes choses, pour utiliser le langage de Éphésiens 1 ou de Romains 8, 28, toutes choses en lettres majuscules. Citation de R.C. Sproul, un prédicateur et commentateur presbytérien, il dit « Il n'y a pas de molécule dissidente dans l'univers. » Fin de la citation. Rien n'arrive par chance, pas dans l'univers de Dieu. Et nous avons vu, on a déjà vu cela dans Josué 3, la puissance souveraine de Dieu lorsqu'il a séparé le Jourdain et que les Israélites ont pu traverser à sec. Dans Josué 6, nous avons vu aussi sa souveraineté lors de l'implosion des murs de cette grande forteresse militaire de Jéricho, où il a déployé son bras puissant et exercé sa puissance et son autorité. Nous avons vu aussi sa puissance et son autorité dans Josué 10, sur les éléments, le soleil, que ce soit qu'il se soit arrêté ou que ce soit une éclipse. Mais le Dieu souverain contrôle le soleil, contrôle les éléments. Et ensuite, nous avons vu aussi ce que nous pouvons appeler une autre grande chose que Dieu a le contrôle sur. Rappelons-nous aussi ce qui est arrivé dans Josué 10. Les pierres de grêle qui sont descendues du ciel et ont écrasé les Amoréens. Même ce que nous pouvons appeler les choses mauvaises dans la vie, que nous appelons aussi les calamités, sont sous le contrôle souverain de Dieu. J'ose espérer que chacun ici, ce matin, croit que Dieu contrôle les grandes choses. Mais qu'en est-il des petites choses? Nous trouvons de petites choses dans Josué 13. Cela concerne les grandes choses, la répartition du pays, mais tout cela tourne autour de petites choses. Notez au verset 6, il nous est dit que cela se fait par le tirage au sort, par le sort. Dieu a clairement stipulé que le pays sera proportionné parmi les tribus par tirage au sort. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y avait ce tirage au sort, comme déjà mentionné dans l'Ancien Testament plusieurs fois. Dans le Nouveau Testament, cela est mentionné 7 fois. En dépit de toutes ces références, cependant, personne ne semble au clair exactement à savoir ce que cela impliquait lorsqu'il tirait au sort. Certains pensent qu'ils utilisaient des petits bâtons de différentes longueurs. Certains pensent que c'était des pierres plates, comme des pièces de monnaie, ou des sortes de dés. Ainsi, nous ne savons pas la nature exacte. Cela pourrait sembler être comme lancer une pièce de monnaie ou jeter les dés. Mais ce tirage au sort se rencontre le plus dans l'Ancien Testament concernant la division du pays sous Josué, on voit ça dans Josué 13, 21. C'est une procédure dont Dieu avait donné dans le livre des Nombres, et il le mentionne au moins 4 fois dans le livre des Nombres, au chapitre 26, 33, 34 et 36. Dieu leur a dit, « Lorsque vous entrerez dans le pays, voici ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous le divisiez par tirage au sort. » Donc, il n'y avait pas de surprise. Dieu avait préparé Josué et la nation longtemps d'avance pour la division du pays par le moyen de cette méthodologie. Mais pourquoi? Pourquoi le tirage au sort? Premièrement, deux choses. Premièrement, cela maintiendrait l'unité et la paix. Voyez ce qui nous est dit dans Proverbes 18:18. Le sort fait cesser les querelles, les disputes, et fait le partage entre les puissants. Vous ne pouvez dire, vous ne pouvez plaider non plus qu'il y a du parti pris lorsqu'on tire au sort. Imaginez si Josué avait dit au tout début au peuple rassemblé, aux Israélites rassemblés, « Nous avons un pays à diviser. Où voudriez-vous vivre? » Il est là en avant, puis là, il lance ça. Dans les montagnes, près de la mer, dans la plaine, et vous pouvez imaginer les disputes, les arguments des gens. « Je veux ceci, je veux cela, en raison de ceci, en raison de cela. » Ainsi, le tirage au sort était pour préserver la paix, prévenir les lobbies politiques, pourrions-nous dire. Et dans la préparation du message, la personne de qui je me sers racontait cela, qu'il avait reçu un héritage de son père, et il était quatre frères, et dans le coffre, son père avait un coffre-fort, et il avait mis quatre enveloppes dans le coffre-fort. Il n'y avait pas de nom dessus. Et celui dont je me sers, qui est un pasteur, il dit à ses autres frères, « Ben, tirons au sort pour choisir laquelle des enveloppes. » Fait qu'ils ont fait cela et ils ont choisi. Alors, ça a préservé l'unité dans la famille et ça l'harmonie est demeurée. Il ne dit pas ce qui est arrivé dans tout cela, mais c'est une façon de... Il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas de chicane, et chacun est satisfait de son sort, de ce qu'il a reçu. Deuxièmement, mais il y a une autre raison pour le tirage au sort. Proverbe 16:33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Et je crois que c'est la raison principale pour le tirage au sort. Vous voyez, qu'est-ce que le tirage au sort démontre? Il démontre les actes de la souveraineté de Dieu. Dieu est en contrôle. Dieu va déterminer la décision. C'est fait pour la gloire de Dieu. Et cela rappelle à la nation d'Israël que Dieu est souverain, que Dieu contrôle les petites choses, même cette petite chose du tirage au sort. Donc, ce que nous apprenons de Josué 13, nous avons déjà appris non seulement que Dieu est fidèle, son inlassable loyauté, mais aussi la souveraineté de Dieu. Donc, troisièmement, dans ce premier point, la bonté de Dieu et sa générosité. Jésus nous dit que le Dieu que nous adorons, le Dieu qui est notre Père, aime donner de bons dons, de bons cadeaux, de bonnes bénédictions à ses enfants. Et Dieu met sa générosité en avant-plan ici, dans la distribution, dans le partage du pays. Maintenant, si vous ne regardez au pays de Canaan seulement par la lentille de Josué 13, parce que si on lit le chapitre 13, si on essaie d'avoir simplement une idée de ce que c'est, cela pourrait ne pas sembler être une grande bénédiction, un grand cadeau. Mais si vous tournez vers Deutéronome 8, vous trouverez que c'était un magnifique endroit pour vivre, pour élever une famille, pour établir une nation. Une description des caractéristiques visibles dans Deutéronome 8, au chapitre 8, verset 7 plutôt, décrit que c'était un pays plein d'abondance. Il nous est dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. » Et cela résonne comme étant un bon pays. Remarquons aussi les riches produits de l'agriculture, au verset 8 de Deutéronome 8. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenadier, pays d'olivier et de miel. Rappelez-vous que ce pays est appelé un pays de miel et de lait. Et même sous la surface de ce pays, le verset 9, toujours du même chapitre 8 de Deutéronome, il nous dit qu'il y a des richesses naturelles substantielles où les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu extrairas le bronze, le cuivre. Ainsi, c'est un pays riche, fertile. C'est la bénédiction que Dieu donne à la nation d'Israël. Ailleurs, le pays est décrit dans Ézéchiel 20, le plus beau de tous les pays. Dans Malachie 3, il dit que c'est un pays de délices. Dans le psaume 106, un pays qui est enviable. Ici, dans Josué 13 et dans les 10 chapitres suivants, les tribus recevront cette bénédiction du pays. Comme il a été dit avant, cela pointe vers un héritage plus grand. Cela pointe vers cette bénédiction, cet héritage que nous avons en Jésus-Christ. Le langage de l'héritage est trouvé dans le Nouveau Testament. Paul pouvait dire encore de chaque chrétien dans Romains 8, 17, les chrétiens de Rome, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Co, ça veut dire « héritier avec Christ ». Il décrit notre héritage comme des richesses inexplorées. Une des raisons pourquoi Dieu ne nous montre pas tout maintenant, c'est parce que cela court-circuiterait ça nous amènerait certainement dans une confusion dans notre cerveau et dans notre perception des choses. Rappelons-nous que Paul a été transporté jusqu'au troisième ciel, nous est-il dit, et il a vu des choses qu'il ne peut expliquer. Il n'est pas capable de les expliquer. Alors, on peut comprendre, il n'est pas capable de tout mettre ce qu'il a vu dans des mots pour être capable de le dire. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas disable, si on peut dire, dans le bon sens du mot. Nous avons besoin d'un esprit glorifié et un corps ressuscité pour absorber, pour apprécier le plein héritage du ciel et la gloire éternelle. Les yeux n'ont pas vu et les oreilles n'ont pas entendu les choses que Dieu a préparées. Nous n'avons qu'un avant-goût dans notre Bible. Une seconde dans la gloire de Dieu au ciel, nous serons submergés de la générosité et de la bonté de Dieu. Le simple fait d'être en face de notre Sauveur et de le voir face à face. Donc, notre deuxième point principal, notre deuxième question, qu'apprenons-nous concernant l'homme? Eh bien, il semble que nous apprenons plusieurs choses concernant l'homme. Une citation de Napoléon Bonaparte. Il nous est dit que la qualité principale, Napoléon Bonaparte dit, la qualité principale qui fait une grande armée n'est pas la bravoure. Il dit que les soldats, n'ont seulement à être braves approximativement 10% du temps. Non, dit Napoléon, la grande qualité d'un soldat et d'une armée, ce qu'ils ont besoin plus que toute autre chose, c'est l'habileté d'endurer les privations, les épreuves, les dépravations et encore persévérer. C'est la qualité principale. Donc, c'est la qualité principale de la foi chrétienne, en passant, la persévérance. Je ne pense pas que Josué était un homme de courage. 4 fois, Dieu a dû lui dire de ne pas avoir peur. Et je ne crois pas que c'était la qualité, la grâce la plus grande, la plus forte de Josué. Je crois que ce qui frappe ici, Josué, est sa persévérance. Josué avait peur, n'est-ce pas, comme nous avons tous peur dans toutes sortes de circonstances. Mais Josué n'a jamais laissé sa peur de le contrôler ou de le paralyser. Josué était un de ces rares individus dont nous pouvons dire ceci, celui qui commence bien et qui finit bien. Il commence bien et il finit bien. Chaque fois que nous voyons Josué sauter sur le champ de bataille, il prouve qu'il est fidèle. Il est un grand modèle, un grand exemple pour chacun d'entre nous. Et ici, dans Josué 13, nous regardons à Josué. Il est âgé, il est vieux. Nous pourrions dire, je veux être comme lui parce qu'il était fidèle. Il persévère en dépit de tous les obstacles. La mort de Moïse, le Jourdain, toutes ces batailles qu'il a dû mener, à Jéricho, à Haï, entre autres, toutes ces armées de coalition qu'il a fait face au nord et au sud, Josué a persévéré dans tout cela. C'est la grâce que nous voyons avec Josué. Il est demeuré dans la course et est resté constant, ferme. La vraie foi, si vous avez la vraie foi, vous allez persévérer jusqu'à la fin. Mais il y en a peu qui commencent bien et qui finissent bien. Ceci est un encouragement pour notre âme. La vraie foi persévère. Nous pouvons surmonter, par la grâce de Dieu, continuer de combattre la guerre contre notre ennemi jusqu'à la fin. Quelque chose d'autre que nous pouvons noter ici concernant Josué, nous avons appris au sujet de l'homme avancé en âge, comme il nous est dit dans Josué 1. Il sentait probablement, à l'âge qu'il avait, les douleurs de l'âge dans son physique. Et pour ceux qui sont avancés en âge, on peut comprendre tous les petits mots, la diminution de ses forces, les os qui rincent. Il était temps pour lui de sortir sur le champ, de sortir du champ de bataille. Une sérieuse réalité que tôt ou tard, nous avons à faire face à cela, n'est-ce pas? Je ne peux plus le faire. Ce n'est pas quelque chose que nous aimons entendre. Qui aime vieillir et devoir l'admettre? Je ne peux plus le faire ce que je pouvais faire. Je ne peux plus le faire comme je le faisais. Cependant, d'être avancé en âge ne signifie pas de s'asseoir et de ne plus bouger. Il n'a pas été dit à Josué, « Sors du champ de bataille, Josué, vends ta partie de propriété et va sur la côte méditerranéenne et ramasse des coquillages pour le reste de ta vie. » Ce n'est pas ce qui a été dit à Josué de faire. « Josué, tu dois réfléchir ici. Tu dois sortir du champ de bataille, mais je ne veux pas que tu te retires. » Non, je veux que tu continues d'être utile et productif. Et il y a de merveilleuses promesses dans notre Bible concernant la vieillesse, dans le psaume 92, entre autres. Josué est probablement ici âgé de plus de 85 ans. Mais Dieu ne dit pas à Josué, tu es fichu, reste à côté, reste sur la voie de service. Tu es inutile. Non. Voici Josué. Il y a quelque chose d'autre que je veux que tu fasses. Je veux que tu aies une surveillance, une supervision concernant la répartition du pays. Quelqu'un pouvait même mentionner que ceci était de loin la plus grosse et la plus importante chose dans la vie de Josué. Il avait la sagesse, l'expérience, qui mieux que Josué? Il est intéressant que la plupart des batailles de Josué ont pris place dans 6 chapitres, alors que la répartition du pays s'étend sur 10 chapitres. Beaucoup plus d'espace a été donné au pays. Le point à faire ressortir est simplement que lorsque nous sommes avancés en âge, nous ne devons jamais penser que nous ne pouvons servir. La mentalité typique de retraite que nous entendons exprimer en Amérique par la plupart n'est pas biblique. Elle n'est pas centrée sur Dieu, mais centrée sur l'homme. Peut-être que vous ne pouvez plus servir sur le conseil des diacres, que vous ne pouvez plus, en raison de vos forces physiques, vous occuper de la bâtisse, peut-être que vous ne pouvez plus prêcher, peut-être en raison de santé précaire, vous ne pouvez plus vous occuper de la nourriture ou vous occuper des petits-enfants. Mais vous pouvez encore servir. Il y a des façons de continuer à servir Dieu dans l'âge avancé. Si vous aimez réellement les gens, vous allez trouver des façons de servir. Si vous avez un cœur de service, comment pouvez-vous ne pas servir? Si vous avez un cœur par Jésus, comment pouvez-vous ne pas servir? L'Église a besoin de personnes d'âge avancé comme Josué. Il nous est dit que les femmes âgées enseignent les jeunes femmes. Tous peuvent servir de magnifique manière en âge avancé. Donc, qu'est-ce que nous apprenons concernant l'homme dans notre deuxième point de concernant Josué 13? Nous apprenons que la grâce persévérante, que nous pouvons bien commencer et bien finir, que nous pouvons servir Dieu en âge avancé, même si nous avons perdu certaines vigueurs de nos forces. Et troisième chose que nous pouvons apprendre concernant l'homme, celle-ci, elle est plutôt quelque peu négative. Nous apprenons qu'il est très, très facile de perdre notre zèle et de régresser spirituellement. Josué 13 nous tient un avertissement. Il nous est dit au verset 13, « Mais les Israélites ne dépossédèrent pas les Guéchouriens et les Maskatiens. » Vous voyez, il y a quelque chose qui fait défaut ici. Ils ne font pas ce qui leur a été dit de faire. Et rappelez-vous au chapitre 6, ils ont exterminé tout le monde à Jéricho. Jéricho 6, 21, il nous est dit, « Ils vouèrent à l'interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants et vieillards, bœufs, moutons et ânes. » Et nous avons la même définition, la même situation dans Josué 8, verset 2. C'est ce que Dieu leur avait commandé de faire, de vouer tout à l'interdit. Ici, ils ne l'ont pas fait. Ils ont adopté une pratique plus tolérante. Ils se sont relâchés. Et un mot, un anglicisme qu'on emploie, puis qu'on comprend même si c'est en anglais, ils sont devenus « slack ». Quel est le problème? C'est un problème de persévérance. L'obéissance à long terme. Différemment de Josué, qui a bien commencé et bien fini, la majorité des Israélites ne finissent pas bien. Une des choses les plus tristes à voir, et cela arrive trop fréquemment, est un appétit de relâchement, de nonchalance, d'insouciance. Nous perdons un sens de l'urgence. Josué, au chapitre 18, réprimande le peuple, les gens, au verset 3 du chapitre 18 de Josué. Il dit, Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du territoire que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand négligerez-vous? Ils ont relâché. C'est quelque peu frappant, n'est-ce pas? Après tout ce qui a été fait pour eux, toutes les riches dispositions de la bonté de Dieu, de sa fidélité, ils ont été si négligents, cela semble quelque peu difficile à croire. Mais si vous connaissez votre propre cœur, si vous faites une introspection, un examen de nous-mêmes, comme il nous est dit dans Michée, vous savez que c'est très facile pour que cela arrive, n'est-ce pas? Comment expliquez-vous cela? Il pourrait y avoir plusieurs facteurs, mais un de ces facteurs est qu'ils ont commencé à se réjouir de leur confort. Vous voyez, l'adversité a ses tentations, mais aussi la prospérité, peut-être encore plus. C'est pourquoi Dieu ne permet pas qu'il y ait beaucoup, qu'il y en ait beaucoup qui soient riches, parce que nous ne pouvons pas le gérer. Nous pensons que nous pourrions, mais nous ne pourrions pas. Et des fois, on se raconte, « Ah, si je gagnais le million! » Puis là, on met toutes les affaires qu'on ferait. C'est toutes des bonnes choses qu'on ferait, toutes des choses qui sont légitimes. Mais si on gagne le million, regardez dans les statistiques de ceux qui ont gagné le million et même plusieurs millions, tout ce qui leur est arrivé, tous les malheurs qu'ils ont eus. Le plus de richesse, de confort que nous avons, c'est d'autant plus facile de devenir dupe, de se faire des illusions, d'être centré sur soi-même. Un peu comme l'homme riche insensé dans Luc 12. Vous commencez à penser que tout ce que vous avez est quelque chose que vous avez gagné. Vous oubliez Dieu. Ne pensez plus à Dieu et votre besoin de Dieu. Vous arrêtez de prier. Vous arrêtez de lire votre Bible. La vie est devenue trop confortable. Et peut-être c'est ce qui est arrivé. Peut-être qu'ils sont devenus fatigués de combattre. Combattre jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Nous le voyons, pour ceux qui ont eu des enfants dans l'éducation, dans l'élevage, entre guillemets, des enfants. Un enfant, on est plutôt strict et on fait des choses. Deuxième enfant, des fois, il y a des petites choses qu'on laisse passer. Troisième et le quatrième. Et c'est pour ceux qui en ont plusieurs autres, bien. Nous devenons fatigués jour après jour, chose à faire, exhorter, rappeler, répéter, et nous le faisons avec des enfants, des milliers et des milliers de fois. Et c'est ce que nous avons à faire en tant que parents. Mais nous pouvons devenir compromettants, n'est-ce pas ce que David a fait au milieu de sa vie? Les rois vont à la guerre. Et qu'est-ce que David fait? Il ne va pas à la guerre. David est devenu relâche, il est devenu slack. Et cela a été le commencement de son dérapage. Ça l'a amené dans toutes sortes d'autres avenues. Ça l'a en quelque sorte commandé d'autres actions qui ont été néfastes pour lui. Il fut un temps où vous assistiez au culte en mi-semaine, plus maintenant. Il fut un temps où vous aviez un temps de méditation familiale, plus maintenant. Il fut un temps où vous aviez de l'hospitalité dans votre maison, plus maintenant. Il fut un temps où, lorsque vous péchiez, les larmes trempaient votre oreiller et que vous priez en lisant les psaumes 51 ou 32 avec un sentiment réel de conviction, un cœur contrit, plus maintenant. Il fut un temps où vous étiez plus alerte sur ce que vous voyez sur votre téléviseur, plus maintenant. Donnez-lui la couleur que vous voulez. Dérapage, récidive, rechute, déclinaison de l'âme, la perte d'appétit des choses de Dieu. Mais soyez honnête, vous avez régressé et une érosion sérieuse a pris place. Donc, qu'est-ce que nous avons appris? Eh bien, nous avons appris concernant l'homme ceci. L'homme est faible. Son cœur est trompeur, mensonger. Et nous pouvons facilement dériver et devenir engourdis et perdre pied spirituellement lorsque la pression est enlevée. Que la vie devient plus aisée et plus confortable. Josué 13 a un avertissement, frères et sœurs, concernant le fait de ralentir, de se retirer, le manque d'effort et le compromis. Qu'avons-nous appris de ce point de vue panoramique de Josué 13? Nous avons appris concernant Dieu trois choses. La fidélité, la souveraineté, la bonté et la générosité de Dieu. Nous avons appris concernant l'homme trois choses. La persévérance, servir en âge avancé, le service en âge avancé. Et l'aspect négatif, perdre notre zèle, régresser. Et finalement, et plus brièvement, dans la dernière question, qu'apprenons-nous concernant Christ? Vous pouvez dire, mais je ne vois pas Christ ici dans ce passage. Eh bien, il y est. Rappelez-vous que Josué est un type de Christ. Rappelez-vous que le nom même de Josué en hébreu signifie quoi? Il signifie « sauveur ». Et qu'est-ce que nous avons entendu concernant le sauveur? Nous apprenons que Jésus est le sauveur. C'est le mot grec, mais le mot hébreu « Josué », « sauveur ». Ainsi, Josué est un type de Christ. Christ est le sauveur, mais Josué est un petit sauveur, entre guillemets. Il dépeint Christ en conquérant l'ennemi, en étant fidèle, en persévérant. Jésus a persévéré, nous a-t-il dit. Jésus a enduré, a subi la croix. Josué dépeint aussi Christ ainsi, en accomplissant ce que Dieu lui a demandé d'accomplir. Il a brisé les reins de l'ennemi. Il a accompli sa mission. Est-ce que Jésus n'a pas fait cela? Oh oui, il l'a fait, lorsqu'il est allé à la croix. Il a accompli sa mission. Il a conquis le diable, le péché, la mort sur la croix. Il pouvait dire, tout est accompli. Et Christ ne s'est pas mis en retraite, n'est-ce pas? Non, Christ s'est donné lui-même à un autre ministère de surveillance, prenant soin de l'Église. Christ œuvre dès maintenant, donnant des dons, des bénédictions à son Église, la protégeant, la guidant, priant, intercédant. Josué réfléchit Christ, reflète Christ. Cependant, nous devons dire ceci. Josué est un timide reflet de Christ. C'est typologique. C'est un type de Christ. Il n'y a personne dans la Bible qui reproduit pleinement Christ. Cela explique pourquoi, dans Matthieu 16, 13, quand Jésus questionne ses disciples et qu'il leur demande, au dire des gens, « Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? » Et les disciples viennent avec l'opinion de la majorité. Certains pensent que tu es Élie, Jérémie ou Jean-Baptiste. Nous pourrions dire qu'ils ont tous faux. Pas nécessairement. Nous pouvons penser qu'ils sont corrects, qu'ils sont justes. Chacun de ces prophètes est le reflet de quelque chose de Jésus, tout comme Josué est le reflet de quelque chose de Jésus. Si vous êtes une personne pieuse, et en anglais, il y a le mot « godly ». Je pense en anglais, ça rend plus le sens. Ça donne plus le sens. Une personne « godly », moi j'ai traduit par « pieuse », vous reflétez quelque chose de Jésus. La réponse qu'ils ont donnée était fausse. Mais il y avait bien quelque chose qui avait quelque chose de bien fondé dans ces réponses. Les prophètes reflète quelque chose de qui Jésus était, mais il ne le reflète pas complètement. Personne ne le peut. Jésus est trop grand pour être reflété par quiconque. Charles Haddon Spurgeon mentionne cela au sujet de Jésus-Christ. Il dit « Quelle merveilleuse chose qu'une énorme, considérable quantité de promesses et de prophéties et de types devait être accomplie en une personne. Il doit être un prophète comme Moïse. Il doit être un champion comme Josué. Il doit être un sacrificateur comme Aaron, Melchisédek, un roi comme David, Salomon. Il doit être comme un Noé, un Jonas, un Joseph. Mais comment une personne peut-elle être tout cela? Comment peut-il être sans tache, sans flétrissure, sans défaut et encore porter toutes nos iniquités? Comment peut-il s'asseoir sur un trône et mourir sur une croix? Comment peut-il tout posséder et ne pas avoir un endroit pour reposer sa tête? Comment peut-il être un lion et un agneau? Qui pourrait jamais être tout cela? Y a-t-il quelqu'un dans tout l'univers comme cela? Oh oui, il y en a un, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui pour vivre la vie chrétienne, pour persévérer et persévérer jusqu'à la fin. Nous avons besoin de lui pour venir encore et encore pour la grâce et le pardon, pour tout ce qu'il a promis. Nous avons besoin de quelqu'un de plus grand que Moïse, plus grand que Josué, plus grand que David. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas un chrétien, c'est ce que vous avez besoin. Vous pouvez peut-être penser que vous n'en avez pas besoin, mais vous en avez besoin. Vous avez besoin de plus grand que Josué, que Moïse, que David. Vous avez besoin d'un rédempteur, le Dieu fait homme rédempteur. La Bible dit qu'il n'y a qu'une personne qui est parfaitement Dieu et parfaitement homme, c'est Jésus-Christ. Et ce nom même vous dit pourquoi vous en avez besoin. Il est le sauveur, il est le oint. Et il est venu pour sauver les gens de leurs péchés. Si vous croyez en Jésus, quel héritage vous aurez? Un héritage éternel. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes pour être sauvé. Il est intéressant, en lisant Matthieu 5, le sermon sur la montagne, que Jésus fait mention au verset 5, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Nous allons avoir la terre, un nouveau ciel et une nouvelle terre comme partage. Une citation du puritain Isaac Watts. « Combien riche est ta générosité, roi de grâce. Le monde est à nous. » Et le monde à venir, la terre est notre... J'ai eu de la misère à traduire le mot « lodge ». La terre est notre, on pourrait dire, notre maison et le ciel notre résidence. Toutes choses sont à nous. Fin de la citation. Un jour, les chrétiens régneront avec Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Si nous souffrons avec lui... Souffrez-vous pour Christ? Avez-vous souffert à cause de Christ? Si vous souffrez avec lui et pour lui, vous allez régner avec lui. Amen. Prions. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Nous te remercions que nous avons cette parole, Seigneur, que nous pouvons lire, que nous pouvons méditer, que nous pouvons exposer, Seigneur. Nous te remercions aussi, Seigneur, de ce que l'Esprit, Seigneur, nous enseigne concernant cette même parole, Seigneur, l'applique à notre vie, Seigneur, et nous aide, Seigneur Dieu, à manifester cette grâce que nous recevons par l'exposition de ta parole, Seigneur, et l'appliquer dans notre vie de tous les jours, Seigneur, pour désirer te plaire. Et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.